pouvoir juger de la situation de l'Église après le synode, il me semble indispensable de jeter un regard sur l'Église aussi avant le synode. Ce que j'ai dit dans les dernières conférences que j'ai eu l'occasion de faire, même aux États-Unis, le synode a été la conclusion de 20 ans après le Concile, de 20 années au cours desquelles le Concile et l'esprit du Concile ont été appliqués. Et il fallait donc faire le bilan et savoir s'il fallait continuer dans le même sens ou bien s'il fallait faire quelques modifications. Du moins, c'est ce qui apparaît dans le questionnaire qui a été envoyé à tous les évêques à l'occasion du synode. Il est plusieurs fois question dans ce questionnaire que j'ai ici sous les yeux de l'esprit du Concile. L'esprit du Concile a-t-il été appliqué convenablement? Est-ce que cet esprit du Concile a eu des conséquences heureuses? Est-ce que cet esprit du Concile a eu certaines conséquences défavorables? Eh bien, ces questions qui sont posées, nous essaierons d'y répondre en faisant aussi un certain bilan de ce qui a précédé le synode et ce qui nous a été donné par le Concile, ou du moins après le Concile. Après le Concile, vous avez pu constater vous-même, dans vos paroisses, en examinant l'attitude de vos prêtres particulièrement, curés, vicaires de paroisse, professeurs dans vos collèges. Et je pense que beaucoup de fidèles se sont demandé, mais pourquoi le prêtre que nous avions toujours connu, avec la soutane, et qui avait des attitudes et une tenue ecclésiastique, vraiment sacerdotale, le voici maintenant en civil, peut-être avec une petite croix, mais encore cette croix n'a pas duré longtemps. Comment se fait-il que ce prêtre ait changé immédiatement après le Concile d'attitude et puis même dans son genre, dans sa manière de s'adresser aux fidèles, dans ses contacts, quelque chose avait changé qui vous inquiétait les fidèles. Et puis vous êtes entré dans votre paroisse comme d'habitude, un dimanche. Vous avez été tout surpris de voir que certaines statues avaient disparu de la paroisse. Pourquoi? Il paraît que ces statues sont maintenant inutiles dans les paroisses. On les a donc fait disparaître. Un dimanche suivant, voici que le prêtre, au lieu de célébrer la messe à l'autel comme d'habitude, a placé une table en face de l'autel. Et il se tourne vers les fidèles. Tu te dis, enfin, c'est bizarre. Notre bel hôtel, magnifique, hôtel en marbre, en pierre, l'objet principal de notre église, le centre de notre église, le voilà abandonné. Il y avait autrefois sur l'hôtel le tabernacle avec la petite lumière qui indiquait la présence de notre Seigneur. Nous aimions bien ça, venir à l'église de temps en temps et prier devant un sacrement. Tout à coup, plus de lampe. Est-ce que le sacrement, Saint-Sacrement est encore dans le tabernacle? Est-ce qu'il n'y est plus? Nous ne savons pas. Mais tout à coup, nous apprenons que le Saint-Sacrement a été mis quelque part, loin de l'autel. Tout cela vous posait des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'église pour cela? Et puis la messe a changé. Plus de croix. devant laquelle le prêtre adressait prière, tournait vers le sacrifice de notre Seigneur, vers la croix de notre Seigneur. On n'a plus de croix sur son autel, sur sa table. Plus de génuflexion devant le Saint-Sacrement. Mais enfin, quand même. Mais est-ce que ce prêtre ne croit plus dans la présence de notre Seigneur, en sens de l'Eucharistie? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Et puis vous entendez, vous revenez chez vous, ce sont vos parents, des amis, de la famille qui dit « Oh, mais chez nous c'est encore bien pire, oh, mais ici c'est la même chose, et un tel... » Mais vous ne savez pas, vous n'avez pas appris que dans la paroisse voisine, le prêtre s'est marié, il est parti, s'est marié. Comment? Il s'est marié, c'est pas possible. Mais oui, il est marié. Mais il est marié avec l'autorisation de Rome, il a envoyé une demande à Rome, ça lui est revenu, 3 semaines après, il pouvait se marier, il s'est marié, c'est même l'évêque qui a fait le mariage. Mais ils sont nombreux comme ça. Oh, il paraît qu'il y en a un certain nombre. Des milliers, dit-on. Des milliers. Et puis, dans le pensionnat de... où notre petite fille fait son éducation, reçoit son éducation, mais vous ne savez pas, il y a des religieuses qui sont parties aussi, qui se sont mariées. Mais non, c'est pas vrai. Mais oui, mais c'est sûr. Une telle est partie. Et puis, vous voyez, les sœurs sont en train d'abandonner leur voile, d'abandonner leur costume, se sont mises en laïque. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Mais pourquoi ce changement? Avant le Concile, tout le monde apparaît encore ayant la foi catholique. Et puis, quelques années après, 3-4 ans après, tout est changé. Mais c'est pas possible. Oh non, alors ça c'est vraiment exagéré. Il faut absolument que nous écrivions à nos évêques pour demander des explications. Ça ne peut pas durer comme ça. Si ça continue comme ça, nous allons perdre la foi. Nous aussi, si le prêtre lui-même ne croit plus dans la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Et puis vous n'avez pas vu, mais le prêtre maintenant s'est assis au siège auprès de l'autel et fait distribuer la communion par des laïcs. Alors vous écrivez à votre évêque. Vous dites, mais enfin, quoi, qu'est-ce qui se passe? On nous change notre religion, ça ne va plus. Qu'est-ce que répond l'évêque? Il dit, mais écoutez, rendez-vous compte qu'il y a eu le Concile Vatican II. Il faut savoir qu'il y a eu le Concile Vatican II et que désormais, ben oui, des choses sont changées. Et vous devez accepter ces changements qui ont été demandés dans le Concile Vatican II. Ce concile a été un concile d'adaptation au monde moderne, d'adaptation à l'homme moderne, à l'esprit de l'homme moderne. Eh bien, il faut savoir vous soumettre. Et nous approuvons tout à fait, vos prêtres, des changements qui ont été faits. Mais il ne faut pas vous effrayer, obéissez à vos prêtres. Et puis vous apprenez que l'évêque aussi a abandonné sa soutane. Oh, mais c'est pas possible. Mais si, l'autre jour, lorsqu'il y a eu une réunion avec le bourgmestre, l'évêque est arrivé en civil. Mais c'est pas vrai. Mais oui, c'est sûr. À tel point que même le bourgmestre lui en a fait la remarque. Il a dit, écoutez, quand même, monseigneur, moi je suis en tenue, et puis vous, maintenant, vous avez abandonné la vôtre, je suis quand même un peu surpris. Et puis, d'autres nouvelles vous arrivent. Mais vous savez que l'évêque est en train de vendre le grand séminaire. Mais non, il vend le grand séminaire. Ce séminaire pour lequel il nous a fait des quêtes et des quêtes pendant des années, avant le Concile Vatican II. Il y a seulement 30 ans que ce séminaire est construit, il l'a mis en vente. Oui, parce qu'il paraît que la formule séminaire, maintenant, c'est plus conforme à l'esprit des jeunes gens. Les jeunes gens n'acceptent plus d'être mis comme une espèce de clôture et enfermés dans un séminaire pendant toute une année, ça ne convient plus au genre des jeunes gens d'aujourd'hui. Alors, il a loué quelques appartements en ville, et les séminaristes sont dans des appartements en ville. Ah ben ça, alors. Parce qu'il faut que ces jeunes gens aient des contacts avec le monde. Et puis, quelque temps après, vos enfants reviennent de l'école, eh bien, comment ça va, l'école? Ah ben, on nous a donné des nouveaux catéchismes. Ah bien, montre un peu ton catéchisme. Regarde le catéchisme. Mais enfin, il y a des choses qui ont disparu du credo. Il n'y a plus la virginité de la très sainte Vierge. Il n'y a plus la résurrection de notre Seigneur. On ne parle plus des anges dans le catéchisme. On ne parle plus du purgatoire. Mais enfin, c'est ça qu'on t'a mis. Qui est-ce qui t'a remis ça dans les mains? Ben, c'est la maîtresse. C'est le maître d'école qui nous a mis ça. Et voilà. Vous regardez, ça vient, oui, il y a bien l'imprimature de l'évêque. L'évêque est d'accord pour que ce catéchisme soit enseigné maintenant comme ça aux enfants. Vraiment, ça nous a demandé ce qui se passe dans l'Église. Alors, un peu ému par tout cela, vous prenez la décision d'en écrire à Rome. On dit, c'est plus possible. Pas possible qu'on n'enseigne plus la foi dans son intégrité à nos enfants. Et alors vous avez écrit à Rome. Et à Rome, on vous a répondu, faites confiance à vos évêques, faites confiance à la conférence épiscopale, sachez qu'il y a eu le Concile Vatican II, que maintenant les choses doivent s'adapter au monde d'aujourd'hui, il ne faut pas toujours rester sur les choses du passé. Il faut savoir s'adapter à notre époque, à notre siècle. Et puis, vous apprenez qu'à Rome, il y a eu une séance charismatique à Saint-Pierre, une séance où les membres de ce mouvement charismatique ont poussé des exclamations, des voix, ont fait des gestes bizarres, et se sont même couchés par terre, ils se sont embrassés, ils se sont, enfin, poussés des cris, soi-disant qu'ils parlaient les langues, alors ils parlaient les langues, alors chacun avait sa langue, chacun avait ses expressions, chacun avait ses poussées, une espèce de cacophonie invraisemblable, et une séance scandaleuse, absolument scandaleuse, dans Saint-Pierre. Mais enfin, le pape ne voit pas ça. Ben, paraîtrait qu'il a accepté que cette séance ait lieu dans Saint-Pierre. C'est quand même vraiment curieux. Et puis vous apprenez que à Rome, on a accordé également de nombreux mariages aux prêtres. Qu'il y aurait, paraît-il, maintenant 70 000 prêtres mariés, ce qui fait 1 sur 5. C'est du moins ce que la réunion des prêtres mariés, les délégations qui ont eu lieu, qui se sont réunies à Castel Gandolfo, tout près de la maison du Saint-Père, au mois d'octobre ou septembre dernier, ont dit qu'ils étaient 70 000. Alors, vraiment, c'est une chose même curieuse. Et qu'on ne compte plus le nombre des religieuses qui sont devenues laïques et qui ont abandonné leurs promesses religieuses. Et tout cela, toujours, sous prétexte qu'il faut se soumettre à l'esprit du Concile, il faut se soumettre aux nouvelles orientations qui ont été données par le Concile Vatican II. Et puis voilà que vous apprenez de nouveau qu'il y a des réunions maintenant œcuméniques. C'est encore une nouveauté. Vous n'aviez jamais vu ça. Jamais on n'avait vu ça dans l'Église. Voilà maintenant que les protestants viennent dans notre Église. Et que l'évêque, paraît-il, aurait invité tous les catholiques de son diocèse à venir dans sa cathédrale parce qu'il y allait y avoir des soi-disant ordinations de pasteurs et de femmes pasteurs. Alors, l'évêque invite à venir dans la cathédrale catholique à ces ordinations. Et non seulement il invite et il y assiste lui-même, mais après l'ordination de ces femmes pasteurs, l'évêque reçoit la communion d'une de ces femmes pasteurs. Oh non, c'est pas vrai. Racontez-nous, c'est pas possible. Eh oui, l'évêque de Sherbrooke, au Canada, a fait ça plusieurs fois. L'évêque de Sherbrooke, l'archevêque de Sherbrooke, s'il vous plaît, au Canada, dans la province de Québec, a invité tout son monde, tous ses catholiques, à venir assister à cette ordination et lui-même à communier de la main d'une femme pasteur après la cérémonie. Je le sais, parce que, étant au Canada, quand cette chose-là se passait, je l'ai attaqué à la radio. Je lui ai dit que c'était scandaleux, absolument scandaleux, que cet évêque n'était plus un évêque catholique, c'est pas possible. Alors il a répondu à la radio en disant, Monseigneur Lefebvre m'attaque sur cette cérémonie que j'ai faite, mais il y a une chose qui ne sait pas, c'est que j'ai eu l'autorisation de Rome. Alors, il n'y est pas qu'il avait fait cela, mais il disait, Monseigneur ne sait pas que j'ai eu l'autorisation de Rome. Et il a recommencé l'année suivante. Et puis, ça c'est un exemple, mais maintenant les réunions œcuméniques, ben, elles sont partout. Elles sont dans presque toutes les églises, surtout à l'occasion de la semaine de l'unité. Justement, à l'occasion de cette semaine de l'unité, j'ai lu le discours qu'a prononcé, ou du moins l'article que le cardinal de Bruxelles a rédigé ces jours-ci à propos de la semaine de l'unité du mois de janvier. Je dois avouer que cet article n'est pas catholique. Il parle de la réunion de nos églises, en parlant d'église protestante, église catholique, nos églises. Est-ce que par hasard, l'église protestante, l'église catholique, ce serait la même chose? Ce serait des choses semblables? Et il regrette infiniment que l'église catholique n'ait pas la parfaite unité et qu'il faut rechercher cette unité à tout prix en nous unissant de toutes les manières aux églises, aux autres églises. Mais c'est absolument contraire à notre foi. L'Église catholique est toujours une, parce qu'elle est une dans sa foi. Quand bien même il ne resterait plus que 20 catholiques dans l'Église, ces 20 catholiques-là qui auraient la foi catholique seraient l'Église catholique une, sainte, catholique, apostolique. Ce qui se sépare de l'Église, il se sépare de l'Église. Ils ne font plus partie de l'unité de l'Église. Et si on veut qu'ils s'unissent à l'Église, il faut leur demander de se convertir, d'abandonner leurs erreurs, d'abandonner la corruption de leur foi pour adopter la foi catholique, et alors ils seront dans l'unité de l'Église. C'est un concept absolument faux que de dire l'Église est divisée, c'est un scandale cette division de l'Église. Il n'y a pas de division dans l'Église. Il n'y a pas de division dans l'Église. Ils ne font pas partie de l'Église. Ceux qui n'ont plus la foi de l'Église ne font pas partie de l'Église. Il n'y aura toujours qu'une seule Église, comme il y a, dit saint Paul, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Clair, c'est toujours ce que l'Église a enseigné. Absolument scandaleux de voir cette conception qu'ont maintenant des cardinaux. Un cardinal qui a tout de même une situation importante dans un pays comme le vôtre, et qui dit des choses qui sont contraires à la foi catholique. C'est tout de même grave. Et puis, les cérémonies œcuméniques qui se réalisent aussi à Rome nous jettent dans la stupeur. Vous savez bien que le pape, il y a un an et demi, est allé dans un temple protestant pour prier avec les protestants. On annonce la visite du pape à la synagogue. On a annoncé également publiquement, et le pape l'a fait publiquement à Saint-Paul hors les murs, dans l'église où le pape Jean XXIII avait annoncé le concile, le pape annonce cette réunion de toutes les religions. C'est plus seulement maintenant une réunion œcuménique avec les protestants ou avec ceux qui sont d'appartenance chrétienne, de nomination chrétienne, mais c'est même avec toutes les religions de la terre, il a dit. Alors voilà encore une réunion œcuménique qui va probablement se passer au mois d'octobre, comme l'a annoncé le Saint-Père. Il y a de quoi vraiment être stupéfait, parce qu'enfin, dans ces réunions œcuméniques, quel Dieu prie-t-on? Quand le pape va se trouver dans la synagogue, à quel Dieu va-t-il adresser sa prière, puisqu'il dit qu'il va prier avec les juifs? Je vous le demande, réfléchissez 2 minutes et demandez-vous quel est le Dieu auquel le pape va s'adresser dans sa prière à la synagogue. C'est impossible de prier avec les juifs. Comment voulez-vous que nous prions avec les juifs? Nous prions toujours Per Christum Dominum Nostrum. Toujours. C'est notre Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, fait homme. Il n'y a pas d'autre chemin que notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit lui-même, « Ego sum ostium, je suis la porte du paradis, je suis la porte de la bergerie. Personne ne pourra entrer au ciel s'il ne passe par moi. » C'est pourquoi toutes nos prières maintenant dans l'Église se terminent toujours « Per Christum Dominum Nostrum » parce que c'est la voie. C'est la voie de toutes nos prières. Il est notre prière, en quelque sorte. Notre Seigneur est notre prière. Toutes nos prières passent par lui. Comment prier notre Seigneur Jésus-Christ avec les Juifs qui n'acceptent pas notre Seigneur Jésus-Christ? Ils le combattent depuis qu'ils l'ont crucifié. Ils le combattent. Ils combattent son corps mystique. Ils ne peuvent plus combattre contre notre Seigneur qui est ressuscité, bien sûr. Mais ils combattent maintenant contre son corps mystique qui est l'Église. Depuis 20 siècles, ils sont opposés foncièrement à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'ils ont persécuté tous les juifs qui se sont convertis, car il y en a eu des milliers et des milliers qui se sont convertis, il y a des centaines de milliers de juifs qui se sont convertis après la prédication des juifs qui étaient les apôtres. Ce sont donc les premiers convertis, ils ont prêché et ils ont converti des milliers et des milliers et des milliers de juifs. Ces juifs-là ont été persécutés, massacrés. Et Paul était chargé, quand il n'était pas encore converti, était chargé d'aller les enchaîner, de les amener à Jérusalem pour qu'on les condamne et qu'on les lapide, qu'on les tue. Il le dit lui-même, saint Paul. Alors, les Juifs ont toujours été opposés parce qu'ils disent « Ce n'est pas le Messie, nous ne reconnaissons pas notre Seigneur comme le Messie, à plus forte raison nous ne le reconnaissons pas comme Dieu ». Et par conséquent, nous attendons le Messie n'est pas venu encore. Alors, il est impossible pour le pape de prier notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il sera à la synagogue, absolument exclu. Donc, il ne pourra pas prier le vrai Dieu, car notre Seigneur est Dieu. Et s'il ne peut pas prier notre Seigneur, il ne peut pas prier le vrai Dieu. Quel Dieu va-t-il prier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout de même très grave, ça. Nous sommes vraiment mis devant une situation invraisemblable. Comme jamais, je crois, dans l'histoire de l'Église, on a été mis, n'est-ce pas? Alors, à la fin de ces 20 années de transformation que vous avez pu constater et devant lesquelles pratiquement nous ne pouvions rien faire, car nous nous sommes adressés aux évêques, les évêques nous ont renvoyés au concile, nous ont dit qu'il fallait obéir. Nous avons essayé d'intervenir à Rome. À Rome, on a dit obéissez à vos évêques. Accepter le concile, accepter tous les changements qui ont été faits, qui sont voulus par le concile. Moi-même, avec Mgr Castromaier, nous avons envoyé deux fois des lettres au pape public, une lettre publique du moins, et une lettre que nous avons publiée ensuite. Une lettre publique que nous avions envoyée il y a un an et demi à peu près, le 8 décembre. Pour dire au Saint-Père, mais de grâce, de grâce, de grâce, arrêtez, arrêtez toutes ces transformations, arrêtez toutes ces nouveautés, si vous ne voulez pas que l'Église soit complètement ruinée. Une Église où il n'y aura plus la foi, puisque les séminaires n'enseignent plus la foi, puisqu'on met dans les mains des enfants, des catéchistes qui ne sont plus catholiques. Comment voulez-vous que la foi persiste? Ce sera une espèce de sentiment religieux, une foi moderniste, une foi qui est comme celle qui a été condamnée par Saint Pie X. C'est pas possible. Et nous avons eu la réponse, toujours la même, il faut accepter le concile, il faut accepter les réformes du concile. Si nous acceptons le concile, nous acceptons tout ce qui a été dit dans le concile. Je ne dis pas que nous n'acceptons pas le concile, mais il y a des erreurs dans le concile qui sont inadmissibles. Et particulièrement l'œcuménisme. Alors nous avons réitéré notre lettre avant le synode. Nous avons envoyé une lettre au Saint-Père plus dure encore, plus ferme que celle que nous avons envoyée l'année précédente puisque nous n'avions pas eu une réponse satisfaisante. J'ai eu la réponse et par l'intermédiaire du cardinal Ratzinger, au mois de janvier, je suis allé à Rome et j'ai reçu la réponse. Cette réponse nous redit la même chose. Mais non, il ne faut pas vous inquiéter, il faut accepter le concile, il faut accepter les réformes post-conciliaires, il faut accepter ces changements. Ce n'est pas une contradiction avec la tradition, c'est tout simplement une évolution de la tradition. Mais alors pourquoi? Pourquoi ces fruits si mauvais? Si nous avions de magnifiques fruits, si les vocations étaient toujours plus nombreuses, si les séminaires étaient remplis de saints séminaristes, de bons séminaristes, qu'on leur enseignait la vérité, si ces prêtres étaient remplis de ferveur, de zèle, de sainteté aussi, et si les couvents se multipliaient, si les congrégations religieuses regorgeaient de vocations, très bien. Pourquoi refuser cela? Bien sûr que non. Mais le cardinal Ratzinger lui-même fait paraître un livre que vous avez lu, dans lequel il signale la situation catastrophique de l'Église. Catastrophique. Il le dit lui-même. Je lui ai dit au cardinal Ratzinger, je lui ai dit ce que vous avez dit dans l'interview et que vous avez publié dans votre livre, est plus fort que ce que je dis moi-même. Vous allez plus loin dans la constatation des effets désastreux de cette période de 20 années que ce que je dis moi-même. Qu'est-ce que dit le cardinal Ratzinger? En résumé, c'est très simple. En Europe, on ne croit plus à la divinité de Jésus-Christ. C'est ça, comme ça. En résumé. En Europe, on ne croit plus à la divinité de Jésus-Christ. Particulièrement chez les ecclésiastiques, particulièrement dans le clergé. Aux États-Unis, l'immoralité. Il n'y a plus de morale. Chacun fait ce qu'il veut. C'est dans le clergé, dans les séminaires, une immoralité invraisemblable, inimaginable. Dans l'Amérique du Sud, la théologie de la libération, c'est-à-dire la révolution en action, la révolution marxiste, ni plus ni moins en action. Dans les pays du tiers-monde, c'est-à-dire, disons, l'Afrique, les Indes, le Japon, le Vietnam, etc., alors c'est ce qu'ils appellent l'acculturation, c'est-à-dire on fait entrer dans la liturgie et pratiquement dans la foi aussi, la foi se corrompt parce que la liturgie incorpore des éléments de la soit de civilisation locale. En Afrique, on incorpore dans la liturgie des éléments de culture païenne, ce qui arrivera tout simplement au résultat du vaudou. Vous savez, le vaudou qui est cette religion mélangée de paganisme et de christianisme qui sévit dans les pays comme Haïti, comme le Brésil. Eh bien, on aura ça en Afrique, c'est déjà comme ça maintenant en Afrique. Et puis ensuite, bien dans les Indes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un article qu'a fait récemment Madame Edith Delamar au sujet justement des réclamations des chrétiens et de certains prêtres à Rome pour leur dire le danger que courait la foi des fidèles dans les Indes parce qu'on incorporait dans la liturgie des cérémonies hindoues. Hindous. On va même jusqu'à mettre dans les églises catholiques une statue de Bouddha. Et on encense Bouddha au cours de la cérémonie catholique. Oui, ça ne va plus. Ça ne va plus. Est-ce que nous avons encore... Est-ce que notre Dieu est toujours notre Seigneur Jésus-Christ ? C'était Edith Delamar qui donne des détails à ce sujet, et vraiment émouvant de la part des fidèles de l'Inde. Alors cela, c'est la constatation que fait le cardinal Ratzinger. Je dis, c'est pas rien ce que vous dites là. C'est effrayant. Alors pourquoi s'obstiner dans une voie qui est la destruction de l'Église, alors que, je dis, sans le vouloir, parce que nous ne voulons pas faire la preuve qu'ils se sont trompés, mais qu'ils viennent voir la tradition. Je l'ai encore dit au mois de janvier au cardinal Gagnon, je lui ai dit au Saint-Père qu'il envoie quelqu'un nous visiter. Pourquoi toujours nous tenir comme des proscrits? Nous sommes comme des proscrits qui ne peuvent jamais visiter. Le Saint-Père va visiter, et bientôt il va aller visiter Thésée. Il va aller, en même temps qu'il va aller à Ars, il va aller visiter Thésée. Quand il est venu en Suisse, pendant que j'y étais, il a visité le Conseil œcuménique des Églises, la communauté juive, toutes les communautés protestantes, il a visité tous les groupes religieux de la Suisse. J'ai écrit à l'annonciature pour que cette lettre arrive au pape en disant « Nous serions heureux que le pape nous rende visite aussi. Et si le pape le désire, s'il vient à Sion, et qu'on n'est pas loin de Sion, nous nous déplacerons avec les séminaristes pour aller saluer le Saint-Père à Sion. Nous sommes prêts à faire cette démarche. » Pas de réponse. Et évidemment, on ne nous a fait aucun signe, aucun geste, alors que le pape était à quelques kilomètres de chez nous. Pourquoi sommes-nous considérés comme des proscrits, comme des lépreux, comme des gens dont on ne veut pas entendre parler et qu'on va visiter des communautés comme Thésée, qui n'ont pas la foi catholique, qui laissent l'immoralité se répandre sur leur propre territoire, le petit territoire de Thésée, dans les tentes? C'est la mixité la plus parfaite et tous ces jeunes sont là, c'est un scandale. absolument un scandale. Je connais des parents qui ont été épouvantés parce qu'il a été raconté par leurs enfants qui sont allés à des congrès à Thésée. Alors voilà, nous en sommes maintenant, n'est-ce pas? Alors on aurait pu penser qu'après l'intervention du cardinal Ratzinger au synode, il y aurait eu même des interventions un peu énergiques, et que soit le cardinal Gagnon, soit le cardinal Siri, soit le cardinal Ratzinger lui-même, et d'autres, quelques autres cardinaux, le cardinal Audi, le cardinal Palazzini, qui sont conscients, ils sont très conscients du danger que court l'Église. Ils en sont conscients et effrayés, je vous assure. J'ai l'occasion de les rencontrer, de parler avec ces cardinaux. Et je dirais, quand on est dans leur bureau, eux-mêmes sont épouvantés. Ils disent, mais oui, ben, c'est vraiment, nous ne savons plus que faire, nous ne savons plus comment, enfin, retrouver vraiment une voie normale dans l'Église. C'est vraiment épouvantable, la situation actuelle. Au synode, à part le cardinal Siri, qui a fait une légère intervention qui n'a pas plu aux membres du synode, et il est parti, il a quitté le synode, c'est le seul qui a fait, je dirais, un geste de réclamation. Tous les autres se sont tus et n'ont rien dit. J'ai entendu dire, lorsque je suis allé à Rome, que le pape avait recommandé aux membres du synode qui auraient pu éventuellement faire une opposition et une réclamation au sujet de la situation actuelle de l'Église, de se taire pour qu'il y ait une unité parfaite dans le synode et qu'à la face du monde et du monde catholique, eh bien, on sente qu'il y a une unité parfaite dans le synode au sujet du concile. Que tout le monde était décidé à adhérer au concile et à continuer l'esprit du concile tel que le concile l'a exprimé, tel que le concile l'a voulu. C'est-à-dire, bon, le feu vert. Feu vert pour la continuation de ce qui s'est fait pratiquement pendant ces 20 dernières années. Alors on peut vraiment se demander, où allons-nous aller ? Où allons-nous arriver dans 5 ans, dans 10 ans, si l'on continue sur cette lancée? Ce sera vraiment, il y aura bientôt plus que des évêques dans les diocèses, il n'y aura plus de prêtres. Les évêques vont être seuls dans leur diocèse avec quelques prêtres autour d'eux, c'est tout. Mais on peut se demander vraiment s'il y a des évêques qui ne sont pas tout à fait consentants à cette solution. Là, on mettra des laïcs à la place des prêtres, c'est pas difficile. Il y a des laïcs qui seront chargés de faire l'Eucharistie, les laïcs seront chargés d'assister au mariage, les laïcs seront chargés de faire les enterrements, les laïcs distribuent la communion, distribuent l'Eucharistie, pas de problème. Ces messes sans prêtres, ce qu'ils appellent les adaptes, eh bien ces fameuses messes sans prêtres, tout doucement vont être des messes qui vont s'institutionnaliser, et les fidèles diront les paroles de la consécration, et les fidèles diront la messe telle que le prêtre le dit, et on leur dira, mais vous savez, c'est aussi valide que quand il y a un prêtre. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes prêtre, vous aussi, nous sommes tous prêtres, vous êtes tous prêtres, n'est-ce pas? Participez tous au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, si vous récitez toutes les paroles de la messe, bien la messe est valable comme quand c'est un prédivien, et puis le tour sera joué. Mais je ne sais pas si les fidèles seront aussi satisfaits que les évêques et les prêtres. Ce sera la ruine totale de l'Église catholique. Car enfin, il n'y aura plus la grâce. L'Église catholique, ce n'est pas seulement des gestes extérieurs, ce n'est pas seulement une communion donnée, ce n'est pas seulement une absolution, la parole de l'absolution donnée, c'est la grâce. Il faut qu'on soit disposé pour recevoir la grâce de notre Seigneur. La vie chrétienne, c'est la vie de la grâce, la vie surnaturelle. Alors, quand les fidèles ne reçoivent plus la grâce, ils meurent. Et quand il y a des tentations, eh bien, ils y succombent. Parce qu'ils n'ont pas la force de l'Esprit Saint en eux et l'habitation de l'Esprit Saint en eux. C'est clair, ça a toujours été la doctrine de l'Église. Pourquoi l'Église a toujours voulu que des fidèles assistent à la Sainte Messe et participent à la Sainte Communion et reçoivent les sacrements pour avoir en eux la grâce de l'Esprit Saint. Alors, il faudrait tout de même se poser des questions. Il y a tout de même quelque chose, je pense que vous êtes d'accord avec moi, je suis bien persuadé que si vous vous interrogez chacun d'entre vous, ou d'ailleurs moi j'en connais encore bien plus que ce que vous avez dit, je peux vous citer tel exemple, je peux vous citer encore un autre exemple, je peux vous citer... Tout le monde a ses exemples, tout le monde a dans sa mémoire des choses qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas comment ça a pu se passer, on ne comprend pas comment on en est arrivé jusque-là, n'est-ce pas? On donne maintenant, on donne la communion aux divorcés. On fait des petites cérémonies pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour le mariage, mais qui vivent ensemble, évidemment. On fait une petite cérémonie, une petite bénédiction à la paroisse. C'est une préparation pour le mariage futur. Mais ils vivent ensemble, en concubinage, tout simplement. Alors, on bénit un concubinage dans les paroisses, maintenant. Ça s'est fait dans les paroisses de Sion, en Suisse. Merci. Si on bénit le péché maintenant, dans les paroisses, enfin quand même, où sommes-nous? Pas possible, on ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Absolument, nous résistions et que nous gardions la foi telle que l'Église nous l'a toujours enseignée, n'est-ce pas? Alors on peut se demander, mais enfin, d'où vient cela? Qu'est-ce qui s'est passé au Concile Vatican II? Vous qui avez assisté au Concile Vatican II, qui avez participé, je participais même à la préparation, je vous étais membre de la commission centrale préparatoire du Concile. Donc pendant 2 ans, c'est le pape Jean XXIII qui m'a nommé membre de cette commission. C'est une commission tout de même assez importante, puisque nous étions une vingtaine d'archevêques et évêques, en général présidents de conférences épiscopales, et puis il y avait 70 cardinaux, et 4 supérieurs généraux d'ordre religieux. Et le pape présidait habituellement nos assemblées de la commission centrale, le pape Jean XXIII. Pendant 2 ans, nous avons eu des séances pour préparer le concile. Donc, je peux dire que je suis bien au courant de toute cette préparation du concile et des réactions que j'ai pu voir, des oppositions entre les cardinaux. Cardinaux conservateurs, si on peut dire, c'est-à-dire moi je les appelle catholiques, les cardinaux catholiques, et les cardinaux libéraux qui en définitive sont modernistes et qui ne sont pas vraiment catholiques. Il y avait des oppositions violentes, véhémentes. Et moi-même je disais, mais qu'est-ce que ça va donner au concile, ça? Eh bien, il faut le dire en toute sincérité, en toute vérité, ce sont les cardinaux libéraux qui ont triomphé au concile. C'est clair, c'est sûr. On a fait taire les cardinaux conservateurs, c'est-à-dire les cardinaux catholiques. On les a priés de se taire. Évidemment, ce sont les autres qui ont triomphé. Et en dehors des séances du concile, eh bien, il y avait ces cardinaux des Bordurins, comme on les appelle, n'est-ce pas, cardinal Alfrinks de Hollande, cardinal Alfrinks de Cologne, cardinal Liénard de Lille, cardinal König de l'Autriche, cardinal Gerlier de Lyon, cardinal Hoefner de Munich. Tous ces cardinaux se réunissaient et étaient tout à fait pour tous les changements. Alors ils se réunissaient en dehors du concile, dans des salles importantes, réunissaient beaucoup d'évêques, et puis du clergé, la presse, et agissaient publiquement en faveur de tous ces changements dans l'Église. Tandis que les autres étaient obligés de se taire, et quand nous devions nous réunir, nous, les quelques conservateurs, quelques évêques conservateurs, qui voulaient essayer quand même d'endiguer un peu ce flot de nouveautés, eh bien, nous devions le faire presque secrètement parce que nous aurions été réprimandés. Parce que nous mettions obstacle à l'évolution de l'Église, à cette adaptation, à cet aggiornamento, comme on dit, le concile de l'aggiornamento, c'est-à-dire la mise à jour de l'Église. Alors nous nous opposions à cela. Mais nous voyons bien. Nous étions 250 évêques à la fin du concile qui étions tout à fait opposés à tout ce bouleversement à l'intérieur de l'Église. Et nous voyons bien ce qui allait arriver. C'est clair. Où peut-on trouver, je dirais, la racine de ce changement? Car il est certain, comme le dit le cardinal Ratzinger dans son livre, quelque chose a changé à partir des années 60. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelque chose a changé dans l'Église à partir des années 60. C'est grave de dire une chose comme celle-là. C'est lourd de conséquences, changer dans l'Église. L'Église qui est une tradition, l'Église qui a une foi et qui a une liturgie, qui est la liturgie de l'Église et non pas la liturgie de chacun d'entre nous, de chaque groupe qui veut faire une liturgie, mais la liturgie de l'Église. C'est grave. Qu'est-ce qui a changé alors? Il le dit lui-même, il explique. Et il dit, eh bien, à partir des années 60, des valeurs qui ne viennent pas de l'Église, mais qui viennent de deux siècles de culture libérale, ont été enfin adoptées par l'Église. Il y a quelques difficultés pour l'intégration de ces nouvelles valeurs à l'intérieur de l'Église, mais c'est une question d'équilibre à trouver, voilà, et le tour est joué. Je vous demande, à vous qui, je pense, connaissez tout de même votre histoire de l'Église et l'histoire de ces derniers siècles, depuis la Révolution française, je vous demande quelles sont ces valeurs libérales, fruits de deux siècles de culture libérale. Le fruit de ces deux siècles de culture libérale, c'est l'idéal maçonnique, tout simplement les idéaux maçonniques, qui nous viennent de la Révolution française, qui sont passés à travers la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, avec toutes les constitutions des droits de l'homme, et puis avec donc toutes les libertés, liberté religieuse, liberté de presse, liberté de pensée, liberté de conscience, toutes ces fausses libertés qui ont été données à tout le monde. Comment sont venues ces fausses libertés? Comment ces hommes, philosophes du XVIIIe siècle, francs-maçons, ont réussi, je dirais, à renverser complètement la vapeur, si on peut dire, complètement l'histoire du monde, on peut dire, eh bien, en tournant le dos à Dieu. Ils ont dit désormais, nous n'attendons plus les ordres de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu. Non, non, le salut, il est dans l'homme. La grâce, elle est dans l'homme. Elle est dans la raison de l'homme. C'est l'homme qui doit lui-même se commander, c'est lui qui a sa conscience. Nous tournons le dos à Dieu, nous tournons le dos à Jésus-Christ et nous nous adressons à l'homme. Vous avez des devoirs, vous avez des droits. Et se tournant vers les hommes, ils ont voulu que tout vienne du peuple. L'autorité, la loi morale, la conscience, la religion, chacun sa religion, chacun sa morale, chacun sa liberté, pourvu que ça ne trouble pas l'ordre public. C'est tout. C'est la seule restriction. Et alors est venu le désordre complet. Plus de commandements de Dieu, plus de devoirs, plus de loi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le désordre complet, l'anarchie complète dans la société. Et ça s'est développé. Voilà les valeurs, voilà ces valeurs libérales. La liberté, liberté, liberté. Et donc la destruction de la loi, car la loi dirige notre liberté. Le bon Dieu nous a donné la liberté, en effet, mais il nous a donné des lois pour canaliser cette liberté, pour nous faire arriver à une fin. Et cette loi, elle est contraignante. Quand notre Seigneur dit « Vous devez croire, et si vous ne croyez pas, vous serez condamné », condamné par quoi? Je vous demande, par l'enfer, c'est pour rien. Si vous ne croyez pas, vous serez condamné. dit notre Seigneur. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Et c'est comme toutes les lois. Une loi qui n'est pas soutenue par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. S'il y a des hommes de loi ici, je pense qu'ils nous diront tout de suite, cette loi n'existe pas. Une loi qui n'est pas, qui ne s'exécute pas, et une loi qui n'est pas punie, dont les contrevenants ou ceux qui vont contre la loi ne sont pas punis, c'est une loi inexistante, ce n'est pas une loi. Il faut donc qu'il y ait la loi, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui punit ceux qui n'exécutent pas la loi. C'est normal. Eh bien, notre Seigneur nous a donné des lois, Dieu nous a donné des lois, le décalogue, il nous a donné la loi chrétienne, eh bien, la punition, elle viendra, en tout cas. Si elle ne vient pas tout de suite, elle viendra lorsque nous serons jugés. Alors ça, c'est fini. La liberté, c'est ce que l'homme veut faire. Plus de loi, plus de loi. Bon, vous imaginez ce qui peut germer dans le cœur des pauvres hommes que nous sommes après le péché originel, avec toutes les tendances mauvaises qui sont dans le cœur de l'homme. Eh bien, c'est la dégénérescence complète. Alors, ce sont ces valeurs-là. Ces valeurs, soi-disant valeurs, n'est-ce pas, de liberté, qui maintenant sont intégrées dans l'Église. Et en effet, le texte qui a été le plus combattu et qui a été le plus difficile à obtenir pour les libéraux, les cardinaux libéraux et les membres libéraux du Concile, ça a été la liberté religieuse. Ils l'ont voulu à tout prix. À tout prix. Ça a été promis par le cardinal Béat, qui a fondé ce fameux secrétariat de l'unité des chrétiens. Le cardinal Béat, ça a été promis à la secte maçonnique juive d'Ibn Aïbrit à New York. Et ça, c'était public, c'était dans les journaux. Pas moi qui l'invente, c'était dans les journaux américains. Le cardinal Béat s'est rendu plusieurs fois avant le concile à New York, a été reçu, c'était marqué, public, c'était pas caché, a été reçu, et il a promis aux francs-maçons juifs de la secte d'Ibn Aïbrit de leur donner la liberté religieuse, que l'Église accepterait la liberté religieuse. Ça a été le poison du concile. Ils auraient abandonné tout le reste, mais pas ça. Pas ça. Ça, c'était essentiel. Si l'Église admet la liberté religieuse, c'est-à-dire chacun sa religion, chacun sa conscience, chacun son sentiment religieux, si vous admettez ça, il n'y a plus de problème entre nous, francs-maçons, entre nous, juifs, et l'Église catholique. Tant que l'Église catholique dit « Ah non, il n'y a pas de liberté religieuse », la liberté religieuse n'existe pas, puisqu'il n'y a qu'une religion, et que le bon Dieu veut que nous adhérions à cette religion. Il l'a dit, il l'a proclamé, il veut que nous adhérions à cette religion. Il n'y a donc pas de liberté religieuse. Nous sommes obligés, si nous voulons être sauvés, de passer par cette religion. C'est Dieu lui-même qui nous l'a dit. Donc il n'y a pas de liberté religieuse, nous ne pouvons pas choisir. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, moi je peux être catholique, moi je peux être musulman, moi je peux être ceci, je peux être cela. Non, pas vrai. Pourquoi il y a eu des missions? Pourquoi notre Seigneur a envoyé ses apôtres aller enseigner toutes les nations? Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Pourquoi les a-t-il envoyés comme ça dans le monde? Précisément pour convertir toutes les âmes. Et ça a été le rôle de l'Église pendant toute son histoire, d'envoyer des missionnaires jusqu'aux confins du monde pour essayer de convertir tous les gens à Jésus-Christ. Et ils se sont fait massacrer, les missionnaires se sont fait massacrer, ont versé leur sang à cause de ça. Et maintenant, liberté religieuse. Chacun a sa religion. Congrès de toutes les religions. Quel Dieu vont-ils prier dans ce congrès de toutes les religions, je vous le demande. Ils ne peuvent pas prier Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas prier la Trinité Sainte, puisqu'ils n'y croient pas. Toutes ces religions n'y croient pas. Ils sont même opposés à cela, absolument opposés. Alors, je ne vois pas. Ils vont adorer l'être suprême, et puis peut-être le grand architecte, je ne sais pas moi. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'ils vont bien prier dans cette réunion de prière entre toutes les religions du monde? Alors, vous voyez, il y a eu un renversement. Ce renversement qui s'est fait à la Révolution française, On a tourné le dos à notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a plus voulu de ses lois et on a instauré le règne de la raison humaine. La déesse raison a été portée, n'est-ce pas, dans la cathédrale de Paris à Notre-Dame, et on lui a fait des adorations, adoration à la raison humaine, adoration à l'homme. C'est abominable, abominable. Et c'est cela qui a bouleversé tous les esprits qui, depuis deux siècles. Et bien maintenant, à partir de Vatican II, on peut dire aussi, d'une certaine manière, que sont des hommes d'Église, je ne dis pas l'Église parce que l'Église ne peut pas changer, pas plus que notre Seigneur. Notre Seigneur est Dieu, il ne changera jamais, il ne pourra jamais changer, il sera toujours notre Seigneur Jésus-Christ, il sera toujours le Sauveur, le Prêtre et le Roi. Il ne peut pas changer, c'est impossible. L'Église ne peut pas changer, elle sera toujours l'épouse mystique de notre Seigneur Jésus-Christ et son corps mystique. Il ne peut pas changer non plus dans ses principes, c'est absolument impossible. Mais ce sont les hommes d'Église qui sont à l'intérieur de l'Église, qui ont malheureusement l'autorité dans l'Église, qui ont décidé d'eux aussi, d'une certaine manière, de tourner le dos à notre Seigneur Jésus-Christ. Et de s'adresser aux hommes, et de s'adresser à l'homme, et de lui demander ce qu'il voulait. Bien, nous voulons la liberté. Et il leur a accordé la liberté religieuse. Fausse liberté, encore une fois. Liberté qui n'existe pas. Une fois qu'on accorde la liberté religieuse, vient l'œcuménisme, évidemment. Il n'y a pas de raison que toutes les religions ne soient pas sur le même pied. C'est ce que le pape a dit aux Indes. Il faut désormais traiter sur le pied d'égalité toutes les religions. Mais ce n'est pas possible. Moi, j'avoue, je ne comprends pas. Je ne sais pas quelle est votre réaction à des paroles comme celle-là. Moi, je ne comprends pas. Et je trouve que c'est excessivement grave. Excessivement grave. Que doit penser notre Seigneur Jésus-Christ de cela? Lui qui est mort sur la croix, nous allons dans quelques jours revivre toutes ces scènes de la Passion, la Semaine Sainte. Nous allons revivre sa mort sur la croix, la mort de Dieu et sa résurrection après. Il est Dieu, il jugera tout le monde. Qui jugera les vivants et les morts, tous seront jugés par lui. Comment peut-on mettre sur le même pied notre Seigneur Jésus-Christ, Bouddha, Mahomet, Luther, etc. Mais ce n'est pas possible. C'est impossible. Alors nous sommes maintenant dans cette situation vraiment douloureuse, n'est-ce pas? Alors que devons-nous faire? Parce que, vous voyez, c'est une situation profondément grave. Ce n'est pas un changement dans la liturgie du français ou du latin en français ou du latin en langue vernaculaire, tout ça. Ce n'est pas des petits changements, même à la rigueur, je dirais, la table d'hôtel changée, que sais-je. C'est un changement profond, idéologique. Profond et qui précisément alors a eu son influence dans toutes les réformes et surtout dans la Sainte Messe. C'est pourquoi le crucifix a plus ou moins disparu et que l'on tourne le dos à notre Seigneur Jésus-Christ pour s'adresser aux hommes, s'adresser à l'Assemblée, s'adresser au peuple de Dieu. Mais tout nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ, tout. Nous sommes créés par lui, c'est lui qui a acheté les mondes dans l'espace, c'est lui qui nous a créés, qui nous soutient dans l'existence. Nous lui devons tout, il a versé son sang pour nous, nous devons nous tourner vers lui pour recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin et l'existence que nous avons. C'est lui qui est le maître de notre santé, de notre maladie, de notre vie, de notre mort. Il est le maître. Le jour où il dira que nous devons mourir, nous mourrons et nous serons jugés par lui. Il est le maître. Comment pouvons-nous ne pas nous tourner vers notre Seigneur pour lui demander des grâces dont nous avons besoin, pour lui demander justement de faire en sorte de donner des grâces de conversion au monde entier et nous tourner vers le peuple chrétien pour lui apporter Jésus-Christ dans la Sainte Communion, pour donner Jésus-Christ aux âmes. Mais non pas dire à l'Assemblée que c'est elle désormais qui a tous les pouvoirs, c'est elle qui est prêtre, c'est elle qui est roi, C'est elle qui est le sauveur, le salut. C'est bien que cette crise de l'Église est une crise excessivement grave, comme jamais l'Église n'en a connu au cours de son existence. Alors j'attire votre attention à ce sujet-là, n'est-ce pas, les résultats du synode vont être que cette situation va continuer, malheureusement. Malheureusement, elle va continuer. Et nous observons d'ailleurs, depuis le synode, que la persécution qui est exercée contre ce qu'on appelle les traditionalistes, moi je n'aime pas tellement ce terme traditionaliste, sans doute nous voulons la tradition et nous sommes attachés à la tradition, mais je veux simplement les catholiques. Parce que, comme le dit très bien saint Pédis, le catholique est traditionnaliste. Et le traditionnaliste est catholique. Parce qu'on ne peut pas se séparer de la tradition, on ne peut pas se séparer du passé de l'Église, voyons. De cette foi qui nous vient des apôtres. Il faut bien nous tourner vers le passé pour savoir ce que nous sommes et ce que nous devons faire et le but que nous devons rechercher. C'est la tradition, ça. C'est l'enseignement de l'Église. Alors, il est impossible d'être catholique si on rompt avec la tradition. Et c'est ce que font la plupart des hommes d'Église aujourd'hui. Ils ne peuvent plus même venir sentir la tradition. Une messe ancienne les met en fureur. Dire la messe comme on la disait avant le concile, c'est pour eux ils ont une allergie à tout ce qui est passé de l'Église, à tout ce qui est tradition de l'Église, invraisemblable, inimaginable. Enfin, un petit exemple, vous avez peut-être lu, comme dans les journaux, en France est mort un bon prêtre à Millières, en Savoie. Ce prêtre avait 40 ans de présence dans sa petite paroisse, toute petite paroisse de campagne, mais il disait toujours la messe traditionnelle jusqu'à la fin de ses jours, il a dit la messe traditionnelle. L'évêque, Monseigneur Bontemps, qui était à ce moment-là son évêque, fermait les yeux, ne lui disait rien, et c'était ainsi l'occasion pour tout, disons, traditionnaliste, si vous voulez, des environs, de venir dans sa paroisse. Il l'aimait beaucoup, ce prêtre, un saint prêtre. Ce prêtre a mis dans son testament qu'il désirait qu'à son enterrement, on dise une messe, comme il l'avait dit lui-même depuis qu'il avait été ordonné prêtre jusqu'au jour de sa mort, avec la permission de son évêque. Eh bien, l'évêque a refusé. Donc la messe d'enterrement de ce prêtre, qui a dit sa messe tout le temps, selon la messe de son ordination, avec la permission de son évêque, le nouvel évêque qui a succédé à Mgr Bontemps, a refusé. Est allé jusqu'à faire envoyer la police pour empêcher que l'enterrement ait lieu de cette manière. Alors il y a eu un recours à la justice, et les juges ont donné raison à ceux qui défendaient le testament. Les juges ont dit non, il l'a demandé dans son testament, il a droit d'avoir cette messe, il faut lui donner cette messe. L'évêque a donc été débouté, mais l'évêque a tout fait pour que cette messe n'ait pas lieu dans la paroisse. Il dit, la paroisse m'appartient, l'église m'appartient, je refuse que cette messe ait lieu là. Elle aura lieu dehors si vous voulez, mais pas dans la paroisse. Des persécutions invraisemblables, inimaginables. Non, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Quel était le mal qu'il avait à laisser dire cette messe que ce prêtre avait dit pendant toute sa vie, pendant 40 ans curé, et auquel ses paroissiens étaient habitués? Quel mal faisait-il, voyons? Alors est-ce que cette messe a été vraiment mauvaise pendant 20 siècles d'Église? Cette messe était-elle mauvaise? C'est inimaginable, vraiment incompréhensible. Il y a là vraiment comme une espèce de satanisme, à mon avis, vraiment satanisme. C'est Satan qui ne peut plus supporter l'Église d'autrefois. Impossible. Alors nous devons rester fermes, vous voyez. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par tous ces changements à l'intérieur de l'Église. Et nous devons tout faire pour garder la foi catholique. Tout faire. Nous devons refuser toutes ces transformations, refuser toutes ces catéchismes qui ne sont plus des catéchismes catholiques, devons refuser cet œcuménisme qui est une impasse. Une impasse. Nous pouvons prier pour tous ceux qui ne sont pas catholiques, bien sûr. Nous pouvons aller pour leur prêcher des missions, leur rendre tous les services que nous pouvons leur rendre, mais leur dire, vous devez vous convertir à la foi catholique, vous devez devenir chrétien, vraiment, parfaitement chrétien et parfaitement catholique si vous voulez être sauvé. C'est ça la charité qu'on doit avoir envers eux. Et non pas dialogue, en ayant l'impression, mais nous avons la même foi, nous avons les mêmes sacrements, nous avons les mêmes pensées. C'est faux, tout ça est faux. Alors on arrive à une impasse. Ou bien c'est le catholique qui abandonne sa foi et qui passe au protestantisme, au bouddhisme ou à l'islam. Ou alors il faut dire franchement à ces musulmans, à ces protestants, à ces bouddhistes, vous devez vous convertir à la religion chrétienne. Alors ce n'est plus d'œcuménisme et les autres vont se rupturer. Oh, vous aviez promis que nous pourrions nous unir. Maintenant vous revenez à votre rigidité. Seule la véritable religion, c'est la religion catholique. Alors il n'y a plus d'œcuménisme, on n'est plus avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ça a toujours été comme ça, l'Église a toujours prêché comme ça. Prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'œcuménisme possible. C'est une fausse route, absolument impossible. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Vous, à votre place, nous, prêtres, à notre place, et moi, évêque, à la place que le bon Dieu m'a donnée, eh bien, vous devez garder vos familles chrétiennes, protéger vos familles contre cette ambiance mauvaise qui est partout, n'est-ce pas, et qui corrompt la foi. Protégez vos enfants, protégez vos familles, constituez des écoles catholiques où les enfants seront protégés dans leur foi et dans leur éducation catholique. Il faut que les familles se réunissent et décident de faire des œuvres comme celle-là, comme grâce à Dieu. En France, nous avons un certain nombre d'écoles catholiques qui sont bonnes. Ici aussi, vous avez une école catholique ici à Bruxelles. Et il faudrait qu'elle soit beaucoup plus importante et beaucoup plus grande pour recevoir tous les enfants qui désirent y rentrer. Mais en France, il y en a tout de même quelques-unes. Il y a des religieuses dominicaines de Fonjeau, les religieuses dominicaines de Saint-Pré, près de Brignoles, dans le Midi, qui ont maintenant 8 ou 10 écoles pour les filles, des écoles admirables. Demandez à quelques parents qui sont ici, qui ont leurs filles à Liévin, tout près de Lille, dans cette école des dominicaines. Elles sont formées, ces enfants sont formés vraiment de manière merveilleuse. Ces sœurs ce sont des anges, vraiment. Tellement elles forment bien leurs enfants et avec des succès incroyables. C'est toujours 9 sur 10 reçus au baccalauréat, 16 sur 18, et avec des mentions. C'est une formation à la fois, je dirais, complète, parfaite, catholique. Il faut que nous demeurions décidés à garder cette voie profonde. Et puis, ensuite, vous-même, recherchez des prêtres catholiques. Les prêtres qui ont la foi de toujours, qui gardent la tradition, qui gardent la véritable liturgie de toujours, les vrais sacrements de toujours, et non pas ces messes dont on ne sait plus ce qu'elles sont, et ces absolutions générales dont on ne sait pas si elles sont valides ou pas valides, n'est-ce pas, ce qui fait que les gens ne se confessent plus et vont communier sans se confesser. C'est inadmissible. Ce n'est pas la religion catholique, ça. Pour nous, prêtres, nous devons tout faire pour être à votre disposition, pour vos enfants, pour vous, multiplier les centres de messes catholiques. Ah, mais nous allons nous faire frapper par nos évêques. Et la foi catholique passe avant tout. Peu importe les suspens et les peines que l'on peut avoir, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de garder la foi catholique. Ce que dit saint Paul, il faudrait terminer sur cette phrase, mais enfin je voudrais dire quelques mots quand même de mon rôle aussi. Mais je vous dis cette phrase tout de suite de saint Paul, qui en définitive est la conclusion un peu de cette conférence. Saint Paul dit aux Galates, si quelqu'un, si moi-même, ou si un ange venant du ciel vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné primitivement, qu'il soit anathème. Vous voyez bien ce que veut dire saint Paul. Donc il dit, si quelqu'un, quel qu'il soit, peu importe, si moi-même, dis moi-même Paul, si un ange du ciel vient vous enseigner quelque chose, contrairement à ce que je vous enseignais, c'est-à-dire contrairement à la tradition, puisque c'est ce que je vous ai enseigné avant, primitivement, qu'il soit anathème. Eh bien, nous devons avoir cette conviction-là. Si quelqu'un vient nous enseigner quelque chose, ce serait un ange du ciel, ce serait le pape lui-même, ce serait les évêques, tous les évêques réunis, vient à dire, non, vous ne devez plus croire ce que vous avez cru avant, c'est fini ça. Eh bien, non, qu'il soit anathème, comme le dit saint Paul. Nous voulons garder la foi de toujours. Cette foi qui est inébranlable, inébranlable, définitive. C'est cette foi qui est la foi du, qui est la vision du ciel, qui est éternelle. Elle ne peut pas changer, elle ne peut pas se modifier. C'est impossible. Ou alors Dieu n'est plus Dieu. Dieu ne change pas. Et quand Dieu nous a enseigné quelque chose, cette foi-là ne bouge plus, c'est fini. Alors nous devons être fidèles. Et pour moi, qu'est-ce que je dois faire des prêtres? Ah oui, je dois faire des prêtres. C'est ce que j'ai voulu faire, en parfaite concordance avec l'Église. Ne croyez pas que j'ai fait ça comme le demandait tout à l'heure un journaliste, me disait, oh, vous êtes en révolte contre le Saint-Siège. Je ne suis pas en révolte du tout. Je ne suis pas du tout en révolte, je n'ai jamais été un révolté. Jamais été un dissident. Enfin, imaginez, pendant 40 ans de ma vie sacerdotale et de ma vie épiscopale, j'ai bientôt 40 ans de vie épiscopale, puisque je les aurai l'année prochaine, eh bien, j'ai toujours fait la même chose. On m'a félicité, on m'a fait évêque, on m'a fait archevêque, on m'a fait délégué apostolique, c'est-à-dire nonce pratiquement apostolique. J'ai été assistant en tourne pontificale, j'ai été nommé membre de la commission centrale du Concile, et donc, il m'a même occupé plus le chapeau de cardinal. Il est passé au-dessus. Eh bien, on m'a donc félicité partout, j'étais vraiment, je crois pouvoir le dire, un ami du pape Pie XII. Je le voyais tous les ans, pendant 11 ans que j'étais délégué apostolique, j'ai été reçu par lui tous les ans. Et vraiment, j'ai une grande admiration pour ce pape extraordinaire qui était Pie XII. J'ai continué comme ça. Quand, après le concile, les séminaires ont commencé à se désagréger, des séminaristes ont venu me trouver pour que je fasse un séminaire, je l'ai aidé à faire un séminaire. Je ne voulais pas le faire moi-même, mais on a tellement insisté, Mgr Charrière, l'évêque de Fribourg, a tellement insisté auprès de moi pour que je fasse ce séminaire, ben, j'ai commencé le séminaire. Et puis j'ai fait la fraternité de Saint-Sauveur Saint-Pédis avec l'autorisation de Mgr Charrière, signée par Mgr Charrière, évêque de Fribourg en Suisse. Donc tout à fait en règle, j'ai eu une belle lettre du cardinal Wright de Rome pour me féliciter sur ma fraternité sacerdotale et sur la fondation que j'avais faite et les beaux statuts qui avaient été composés pour cette fraternité sacerdotale. Compliment de Rome, mais j'ai gardé la tradition. Voilà mon grand péché. J'ai voulu garder la Sainte Messe, j'ai voulu garder les sacrements, comme je les avais toujours fait moi-même depuis mon ordination. J'ai pensé qu'il ne fallait pas changer et que ces changements amèneraient la ruine de l'Église. J'ai toujours eu cette conviction. Je me dis, moi je ne change pas, je veux faire des prêtres comme toujours, comme l'Église les a toujours fait, comme moi-même j'ai été fait, et comme moi-même j'ai toujours conseillé à mes prêtres de les faire. Donc je continue. Et évidemment, on m'a frappé. Vous gardez la tradition, vous n'acceptez pas les nouveautés du Concile. Non, je n'accepte pas ces nouveautés parce que je sais qu'elles iront à la ruine de l'Église. Alors vous êtes suspens, vous êtes, pas rejeté de l'Église, mais enfin, vous êtes en désobéissance, vous n'êtes pas... Je dis, je ne crois pas que tout soit vrai. C'est vous qui êtes en train de changer l'orientation fondamentale de l'Église et qui irez à la ruine. Eh bien, moi, je ne veux pas, quand je termine mon livre des lettres aux catholiques perplexes, Et je ne veux pas, quand je mourrai, le bon Dieu me dise, eh bien, vous avez contribué, vous aussi, à la destruction de l'Église. Moi, je dis non. Je ne veux pas contribuer à la destruction de l'Église. Je veux contribuer à la construction de l'Église. Et c'est par la grâce du bon Dieu que depuis 15 ans, ce séminaire est fondé. Eh bien, j'ai fait 250 prêtres, j'ai ordonné 250 prêtres qui sont maintenant à travers le monde et qui disent « garde la tradition » et qui continuent, comme ces prêtres qui sont ici, mes voisins, comme ceux qui sont ici devant vous aussi. Ces prêtres que j'ai ordonnés. Et j'ai 270 grands séminaristes dans mes 5 grands séminaires, 4 grands séminaires actuellement, mais il y en aura un cinquième bientôt en France. Il y aura donc 4 grands séminaires. Il y a celui d'Ecône en Suisse, celui de Zeiskofen en Allemagne, celui de Richfield aux États-Unis, celui de Buenos Aires en Argentine. Et puis il y en aura bientôt un à Flavigny. Beaucoup d'entre vous connaissent Flavigny, où était l'abbé Couache. Eh bien, l'abbé Couache, gentiment, généreusement, nous offre sa maison en disant, venez ici, venez faire votre séminaire ici. Vous voulez faire un séminaire en France? Je vous offre ma maison. Je vieillis. Personne n'est avec moi pour continuer ce que je fais. Il vaut bien mieux que je voie de mes yeux le séminaire ici à Flavigny, ce sera magnifique. Nous avons évidemment accepté cette offre, car nous croyons vraiment que Flavigny est un lieu privilégié pour former des prêtres. C'est une maison religieuse, c'est un lieu saint. Nous avons persuadé qu'il y aura aussi beaucoup de séminaristes, parce que nous avons trop de séminaristes à Ecône. La maison est tellement pleine, sans plus les mettre. Alors, c'est donc un signe, je pense, de la Providence. Voilà. Et ma sœur, qui est religieuse carmélite ici en Belgique, vous connaissez bien Quiévrain, le Carmel de Quiévrin, eh bien, elle en est à la 5e fondation. Elle a déjà 4 Carmels de fondés depuis 1978. Pas vieux. C'est seulement, ça, vous voyez, 8 ans. Depuis 8 ans qu'elle est là à Quiévrin. Elle va fonder son 5e et peut-être son 6e Carmel bientôt. Et de bonnes vocations, de saintes vocations. C'est une protection divine qu'un Carmel dans un pays, dans une région. Alors comment ne pas dire que le bon Dieu nous bénit? C'est pas possible. C'est pas possible. Je m'arrête à l'heure des religieuses dominicaines. Ces religieuses dominicaines qui gardent la tradition aussi, la messe de toujours, le sacrement de toujours, le catéchisme de toujours. Elles se multiplient. Elles ont fondé des écoles avec 10 religieuses, s'il vous plaît. 10 religieuses dans une école. Vous voyez la formation qu'elles peuvent donner aux enfants. Alors, c'est une merveille de voir ça. Et de bonnes, saintes religieuses. Donc tout n'est pas perdu. Le bon Dieu donne encore des grâces absolument extraordinaires. Et dans nos milieux traditionnalistes, je vous assure, c'est une consolation pour nous, lorsque nous visitons tous nos milieux traditionnels, de voir le nombre des enfants. Des enfants. Famille de 5 enfants, famille de 7 enfants, famille de 10 enfants, famille de 12 enfants. Et des petits, toute cette famille. Voilà l'Église catholique. C'est ça, l'Église catholique. C'est ça, la merveille qu'a créée la civilisation chrétienne, n'est-ce pas? C'est ces belles familles catholiques d'où sortent précisément les vocations. Vocation de prêtre, vocation de religieux, de religieuse. C'est merveilleux. L'Église, c'est une chose merveilleuse. Mais il faut garder ses lois, il faut garder sa tradition. Si on abandonne sa tradition et sa loi, c'est fini. Si on abandonne notre Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Alors, chers amis, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous assure de toute ma prière pour vous et pour vos familles.